Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Une heure de débrief de tech, c'est comme ça tous les soirs, vous le savez, 20h-21h avec nos experts qui sont là. Des voix et des visages que vous connaissez, Christophe Holnet.
Bonsoir, Christophe. Bonsoir.
Ravi de te retrouver. On voit que la French Riviera est passée par là avec ce teint quand même. Allez, hein, mon cher Christophe.
C'est pas avec le temps parisien, là.
Ça, c'est certain. Senior advisor chez Seven2 et ancien président de Microsoft Asie du Sud et France. À tes côtés, Salim Assad, qu'on est très heureux de retrouver. Salut, bonsoir, Salim. Bonsoir. Associé chez New Fund. Rappelons-le.
Fund, fonds de venture capital qui investit des tickets en amorçage dans les startups.
Très bien, avec quelques belles réussites quand même à la clé. Hein.
Voilà. Dont Aircall, il y en a beaucoup.
Il y en a quand même quelques-unes. Et vous connaissez Salim, puisque de temps en temps, il vient dans Tech & Co pour commenter l'actu. Et Boris Mananti nous a rejoint. Salut Boris.
Bonjour.
Et voilà un nouveau visage. Et voilà une nouvelle voix. En tous les cas, sur BFM Business, puisque monsieur a déjà fait de la radio et de la télé. Bienvenue Boris, rédacteur en chef du service économie du Nouvel Obs, qu'on ne présente pas, spécialiste des nouvelles technologies et auteur de livres. Je crois qu'il y a quelques temps de cela, tu avais commis un livre avec une consoeur à toi sur le danger des portables et des ados, sujet qui revient d'actualité tout le temps, en fait, qui ne s'arrête
continue,
jamais.
Ça continue, ça n'arrête pas. On en parlera avec TikTok. Oui.
Voilà, c'est ça, exactement. Et là, tu t'apprêtes à sortir le 2 mai prochain ce livre, donc, paru aux éditions du Rocher, Elon Musk, Le Bonimenteur. Alors, on va en profiter, puisque Boris a planché sur Elon Musk. Alors, nous, on parle beaucoup de lui. Et c'est intéressant de que tu sois avec nous, parce que je propose que dans cette demi-heure-là, on revienne un petit peu sur le parcours d'Elon Musk et un petit peu ce qui t'a motivé à écrire ce bouquin. Et puis, l'actualité qui nous rattrape, on va en parler tout à l'heure. Vous savez que Elon Musk aimerait gagner un peu plus d'argent avec Twitter. Et là, l'idée, c'est de faire payer les nouveaux utilisateurs qui arrivent sur Twitter. Alors, son excuse, c'est pour éviter d'avoir des bots, parce qu'il fait la chasse aux bots. Mais bon, c'est aussi pour gagner un petit peu d'argent quand même. Pourquoi un livre sur Elon Musk ?
Pourquoi ? Le cheminement est assez simple. Elon Musk.
Parce que c'est pas le premier livre et ça sera sans doute pas le dernier en
non,
plus. Hein.
Non, il y en aura une pléthore d'autres certainement. Elon Musk est toujours un peu vanté comme celui qui révolutionne tout. Tout ce qui touche, c'est révolutionnaire. L'internet, la banque en ligne, l'aéronautique avec SpaceX.
Bien sûr, des voitures électriques.
Les voitures électriques avec Tesla. Plus récemment, Neuralink avec les implants cérébraux. Il y avait un narratif comme ça qui s'imposait un petit peu. C'est aussi l'homme le plus riche du monde. Ils se battent un peu pour le titre avec Bernard Arnault. Sauf quand on creuse un petit peu son histoire, ses éléments biographiques, mais aussi un petit peu tout ce qui se passe à chaque fois qu'il fait une grande promesse, une grande annonce, on se dit qu'il y a quelque chose qui n'est pas toujours très net. Et en creusant, en fait, j'étais curieux de découvrir la réalité derrière ce personnage, qui est assez double, assez faux, et qui réinvente en permanence son histoire, qui réécrit son histoire, qui se modèle un peu son personnage.
Donc c'est plutôt un bouquin à charge ?
C'est plutôt un bouquin à charge.
D'accord.
C'est un portrait plutôt sans concession.
Oui. Ok. J'imagine que ça ne doit pas être très facile d'enquêter sur Elon Musk. Comment on s'y prend aujourd'hui pour enquêter sur un gars qui est une méga star ? C'est une rock star, Elon Musk.
Oui, oui.
Y a des gens qui parlent, qui l'ont connu.
Il y a des gens, disons qu'il y a eu un avant après Twitter, je dirais. Il y a eu, parce que moi j'ai commencé bien avant le rachat de Twitter, à creuser un petit peu, et alors là il y avait beaucoup de portes fermées, et il y avait un peu ce qu'on dit en journalisme du off, des propos qui ne peuvent pas être cités ou pas sourcés. Donc c'était très, très prudent au début. Avec le rachat de Twitter, et quand il débarque chez Twitter avec son évier, qui l'enfonce toutes les portes et qui se met à licencier un peu à tour de bras et se la joue un peu caïd, mais aussi où on comprend que son comportement erratique révèle qu'il n'a pas vraiment de stratégie pour le réseau social et ça périclite un petit peu.
Oui, combien de fois il a lancé des trucs qu'il a après annulé, enfin les...
Je pense que son vrai visage est un peu plus apparu à ce moment-là. C'est le moment où il s'est de plus en plus engagé politiquement. Il le faisait de manière plus discrète avant, mais là, il assume complètement ses positions. Très conservateur, très autoritaire, très d'extrême droite, en fait. Et en ce moment, très pro-Donald Trump pour l'élection présidentielle américaine.
Même s'il n'a pas avoué ouvertement qu'il était pro-Trump, mais il laisse planer...
La précédente élection, il le soutenait, catégoriquement. Là, c'est un peu plus flou. Il soutenait Ron DeSantis, le gouverneur de Californie, qui s'est retiré au profit de Donald Trump.
D'accord.
Et toutes ses positions, et sur son compte à lui, il ne fait que de parler de migrants. On sent qu'il suit un peu le discours ambiant des Républicains.
Tu parlais tout à l'heure de zone sombre d'Elon Musk. C'est quoi les traits de caractère qui reviennent régulièrement quand tu interroges les gens qui l'ont connu ?
Il y a le comportement très autoritaire, très dur, très rude, très froid. Un manque total d'empathie en tant que patron, par exemple. On l'a vu licencier, là encore, il vient d'annoncer des licenciements chez Tesla, c'est par un simple email que c'est
10%,
que c'est annoncé.
10% des effectifs.
Ouais. Ça va être beaucoup de monde licencié. C'est assez brutal comme méthode de management. Ça revient beaucoup. Si on va sur du un peu plus perso, on me l'a décrit comme assez près de ses sous. Oui. Paradoxalement, hein, l'homme le plus riche du monde est assez près de ses sous. Et quand il fait des dîners avec ses lieutenants, c'est implicite que c'est eux qui doivent payer et inviter systématiquement.
C'est dingue, ça. C'est un trait de caractère que je ne connaissais pas.
Voilà. Il y a beaucoup de dettes maintenant.
Oui, c'est pour ça. Ben oui, il a quelques milliards de découverts.
Il a quelques milliards de découverts, mais bon, il a des actions qui sont quand même bien valorisées aussi à côté.
Voilà. Et puis comme tu disais, hein, il est souvent qualifié comme étant l'homme le plus riche du monde.
Exactement. Hein. Et j'ai eu la chance de pouvoir échanger avec son père, qui, lui, a une lecture de son fils comme quelqu'un qui est dans la séduction permanente, qui a des problèmes avec ça, de séduction, il a des frustrations liées à l'enfance, à l'adolescence, et que c'est un séducteur.
D'accord. Et ça fait partie de son... En fait, sa séduction, c'est aussi un pouvoir de charmer, en fait, peut-être de nouveaux ingénieurs ou de nouveaux CEO pour, grossir son équipe. Parce qu'aujourd'hui, avec toutes les boîtes qu'il a, il a intérêt à convaincre les meilleurs managers.
Évidemment. Après, c'est un intérêt qui est un peu trouble, puisqu'il sait très très bien en jouer. Mm-hmm. Il sait très très bien être dans une mécanique d'être toujours dans la promesse d'après. Là, on le voit, Tesla va pas très bien, annonce des licenciements. Le cours de bourse, depuis le début de l'année, baisse de quasiment un tiers. Il est toujours dans l'annonce d'après. Mmh. Là, il nous fait la grande promesse qu'au mois d'août, on aura des robots taxis, un peu sur le modèle des voitures de Google qui sont à San Francisco. On est toujours dans la promesse d'après, même si elle ne se réalise pas.
Oui, c'est vrai que ça fait des années que Elon Musk promet des véhicules autonomes et ça n'arrive pas. Tu te doutais un petit peu de ce double visage d'Elon Musk, à la fois donc génie incontesté, parce que on appuie où ça fait mal, mais malgré tout, c'est un gars qui révolutionne la société avec l'espace, avec les véhicules électriques. Ce que tu dis dans ton livre, c'est que souvent il pique les idées aux autres.
Voilà.
Mais après, c'est lui qui les exécute. Donc
voilà.
On
peut tempérer certains aspects du côté génial. Tesla, on dit toujours Tesla, il a révolutionné la voiture électrique en créant Tesla. Il est important de rappeler que c'est pas lui qui crée Tesla, c'est pas lui qui a l'idée de départ. C'est deux ingénieurs qui développent cette idée-là, qui bâtissent le premier modèle et ils frappent à la porte d'Elon Musk pour les financer, tout simplement. Et c'est vraiment le premier actionnaire à l'origine.
Après,
il a du nez.
Et l'idée, c'est jamais plus compliqué en réalité.
Ouais.
L'exécution. Enfin, en tout cas, nous, dans la position d'investisseur, on n'est jamais à rechercher celui qui a la meilleure idée, celui qui est capable de l'exécuter.
C'est ça.
Il n'y a rien de plus commun que des gens qui ont de bonnes idées.
Et c'est un bon exécuteur, on va dire.
C'est quelqu'un qui a révolutionné la manière d'exécuter de bonnes idées.
Je ne sais pas. Vas-y,
Christophe.
Je ne suis pas certain. En fait, moi, ce que je sens chez Elon Musk, c'est effectivement, tout en étant une personnalité extrêmement forte, froide, etc., aussi une certaine fragilité, probablement. On sent qu'il y a une faille quelque part, qui a probablement été un moteur pour lui. Alors, c'est peut-être cette séduction.
Oui. Après, on le dit.
Tout le monde a des failles, il en a aussi.
On le dit autiste léger, c'est vrai, c'est un Asperger.
Il l'a revendiqué dans une émission humoristique, le Saturday Night Live.
Oui.
Est-ce que c'est vrai ou pas ? C'est difficile à dire à quel point il joue un peu du cliché du geek autiste sympathique, des shiny IP, comme disent les Américains dans la Silicon Valley, qui sont en quête de ça. Est-ce que c'est vrai ou pas ? On ne sait pas. Pour autant, il ne s'est jamais positionné en faveur des troubles autistiques et en soutien des troubles autistiques de quelque façon que ce soit.
Oui, Christophe.
Ce qui est sûr, c'est qu'il a quelque chose que j'admire beaucoup chez les entrepreneurs, c'est cette foi. FOI, toi, cette volonté parfois de dire je ne veux pas savoir si c'est possible ou pas, voilà la vision, je l'annonce, je sais l'exprimer Et je suis
avec
capable,
brutalité parfois.
Je suis capable d'entraîner, de lever des fonds. Je suis capable d'entraîner. Je suis capable de me mettre en danger. Il a été plusieurs fois. Il a été plusieurs fois au bord de la banqueroute, de la faillite. Bien il sûr. S'en est sorti. Enfin, il faut quand même être très, avoir une solidité en soi. Et ça, c'est quelque chose que je trouve extrêmement fort. Après. Mais je pense que c'est une première en tant qu'investisseur, c'est quelque chose qu'on attend, mais on attend aussi une capacité à s'entourer, une capacité à exécuter et une capacité à pouvoir faire des pivots lorsque c'est nécessaire, ne pas être omnibulé par une idée. Il faut à la fois être très ambitieux et accrocheur, mais être capable de pouvoir avoir une agilité et pouvoir bouger. Ouais. Et de ce point de vue, je pense qu'il a été plutôt bien. Ce qui est, enfin, plutôt dans, il a plutôt répondu à ces critères. Après, il s'est lancé dans 4 ou 5 aventures dont on sent qu'il y a probablement un schéma global qu'il a en tête.
Mais, des connexions
entre Starlink, Neuralink, Tesla, SpaceX, X. Bon, il y a certainement une vision globale, mais elle n'est pas extrêmement claire. Et l'impression qu'il me donne, moi, c'est gens qui tournent, qui ont des assiettes tournantes. Il en a 5, il passe de l'une, ça tourne, il va à l'autre
et
on se demande si à un moment
il n'y a pas les assiettes qui vont
tomber. Il y en a pas une qui va se casser la figure.
Ouais, c'est clair. Salim.
Non, c'est vrai qu'il y a beaucoup de résilience chez Elon Musk. Nous, quand on regarde des dossiers, il y a 2-3 choses qu'on regarde en priorité. Enfin, évidemment, ça n'a rien à voir comparé des startups avec Elon Musk, mais ça me fait penser à la manière dont on travaille au quotidien. Est-ce que l'entrepreneur est résilient? Est-ce qu'il a capacité à lever des fonds? Parce que le but dans une belle start-up ou une aventure qui va bien marcher, c'est d'aller réussir à lever le tour d'après et être capable de se financer. Et est-ce qu'il va être capable de recruter les meilleurs talents? Parce que c'est pas lui qui va faire la boîte, c'est les talents qui va être capable de recruter. Donc il lui faut cet aspect un peu dragueur, un peu séducteur, etc. pour attirer les meilleurs talents. Il lui faut cet aspect séducteur pour attirer les investisseurs. Et évidemment, la résilience, c'est la chose numéro un, comme tu l'as dit. Tesla, je crois que c'était décembre 2008 ou à Noël 2008. Il est passé à une. Enfin, ce qu'il raconte, heures. Je ne sais pas si c'est vrai, tu diras si effectivement c'est vrai ou pas, quelques heures de la banqueroute avant l'investissement de Daimler, est-ce que c'est vrai ou pas. Maintenant, il y a quelque chose qui est différent chez Elon Musk, c'est que les gens continuent de lui faire confiance, comparé à ce qu'on aurait fait nous, alors qu'il gère 5, 6, 7 sociétés différentes.
Ouais.
Nous, quand on investit dans un entrepreneur, on lui dit attends, tu dois être focalisé à 100%
humainement,
dans
c'est
ta
impossible.
Société.
Ouais.
Et aujourd'hui, sur des sociétés qui pèsent plusieurs milliards, SpaceX, Tesla, Neuralink, Twitter, etc. C'est juste exceptionnel.
Mais après, Boris, est-ce qu'il incarne ces sociétés, pardon, mais c'est pas lui qui exécute, c'est pas possible.
Il y a des choses qu'il exécute lui, et il a des idées un peu en tête, il est obnubilé par certaines idées.
Aussi parfois, bien pour Tesla, pour X,
qui peuvent être assez mauvaises. Si je prends un exemple, il a bien imposé chez Tesla la mise à jour de la voiture régulièrement à distance, qui permet de développer les capacités.
Ça, c'est une bonne idée.
Mais il en abuse énormément. Par exemple, il sort le nouveau modèle S, il se dit « Ah, les pneus, ça serait mieux s'ils faisaient, je crois que c'est 3 mm de plus. » Pourquoi ? Personne ne le sait. Il trouve que c'est plus joli. Elle est lancée comme ça. Résultat, pendant 6 mois, il n'y a plus eu d'ABS sur la voiture.
Parce que les pneus n'étaient
parce
plus
que
compatibles
les pneus
avec
n'étaient
l'ABS.
Plus compatibles.
Et là, ça, il s'en fout.
C'est-à-dire
et il s'en que
fout,
lui...
il dira « On fait une mise à jour plus tard. »
Voilà. C'est-à-dire que pour lui, c'est le design de la voiture qui était le plus important et non pas la sécurité.
Et non pas la sécurité.
Waouh. C'est étonnant.
Ou c'était plutôt un exemple d'une lubie de...
Ça, c'est clairement une lubie. Après, sur ce qu'on se disait...
Ça fait penser à Steve Jobs, excuse-moi, je te coupe. Oui,
mais beaucoup de...
Alors, pas dans les voitures, mais dans les iPhones, on sait qu'il avait une passion maladive du détail, Elon Musk.
Oui.
Et simplement parce qu'il y avait un petit truc qui ne lui plaisait pas sur un bord arrondi d'un iPhone, il renvoyait tout bouler. Et même si il y en avait des dizaines de milliers qui avaient été commencés à être fabriqués, ça recommençait. Quoi, en fait. Ça fait penser un peu à ce trait de caractère, je trouve.
Mais après, moi, je voulais juste rebondir sur l'idée d'un plan global. Moi, je ne suis pas du tout sûr qu'il y ait un plan global et je pense plutôt que ces dernières années, il a une ambition très... une vision très politique d'un modèle du monde qu'il entend appliquer. Si je prends le cas de l'Hyperloop, on a beaucoup parlé de ce train dans un tube qui relierait très rapidement les villes. À l'époque, c'était San Francisco, Los Angeles, en un quart d'heure, quelque chose comme ça. Ça, on sait que c'est une idée qu'il a complètement copiée. 6 mois plus tôt, une start-up vient, lui propose exactement ça. Il leur dit, pas de problème, je vais peut-être investir chez vous. On revenait plus tard travailler un peu ça. 6 mois après, il annonce son projet à lui qui est exactement le même. Et il l'a un peu plus ou moins avoué qu'il n'avait pas du tout l'ambition de le créer. Il voulait juste faire parler de ça pour contrecarrer le plan de TGV entre San Francisco et Los Angeles.
Et en plus, il avait même pas, il a même pas mis d'argent dans ce projet-là, je crois.
Pas mis d'argent.
Il a confié à d'autres investisseurs qui se sont cassés la figure.
Et pourquoi il fait ça ? Parce que la Californie, et c'est quasiment un quart des ventes de Tesla aux États-Unis.
Ah oui, d'accord.
Mais est-ce que finalement, effectivement, il semble vouloir répondre à un dessein politique. Est-ce que, de ce point de vue, X, Twitter, est un formidable outil. Est-ce que c'est finalement pas l'activité de trop par rapport à ce qu'il avait déjà ?
Il y a des chances que complètement. Parce que déjà, ça révèle un peu plus son vrai visage. Et il a reconnu publiquement qu'il a acheté Twitter, qui est devenu X, dans le but de lutter contre le virus woke.
Mais parce que ça, c'est sa bête de guerre.
Oui, c'est devenu sa bête de guerre. Ouais. C'est vraiment le progressisme dans tous les sens du terme, et en particulier aux États-Unis, avec les droits des mouvements LGBT, des mouvements Black Lives Matter et autres. C'est devenu complètement sa bête noire. Lui, il veut incarner une vision rétrograde. Il veut que toute l'extrême droite, même la plus crasse, puisse s'exprimer sur les réseaux sociaux. Et c'est ce qu'il a fait en rachetant Twitter.
Ouais, mais c'est vrai que sa vision initiale, enfin, en tout cas moi j'étais plus fan de Elon Musk d'avant, avec une vision commune, on va aller sur Mars, et tout concocté dans l'histoire qu'il racontait, SpaceX avec SpaceX pour aller sur Mars, Starlink pour avoir du réseau partout,
l'internet
partout
au débit.
Sur la Terre.
C'est vrai qu'on n'a pas parlé de Starlink, mais c'est aussi une
et bon, Tesla potentiellement pour pouvoir avoir des véhicules électriques dans n'importe quelle planète, etc. Il y avait une espèce de cohérence dans l'histoire qu'il racontait, et aujourd'hui on le voit basculer vers un côté plus financier, plus politique. Moins ingénieur, moins Tony Stark, moins Iron Man, j'ai envie de dire, de ce côté, j'aimais beaucoup.
Oui, il s'est fait rattraper par la patrouille des réseaux sociaux, finalement. Et on se rend compte que c'est un autre métier. Aussi, on ne gère pas un réseau social comme Twitter, comme Tesla ou SpaceX.
C'est même pas.
Voilà.
Je crois aussi qu'il y a un autre élément, c'est que, notamment, je fais référence à ce titre, le Bonimenteur. Bon, c'est un peu péjoratif, mais ils ont cette capacité à pouvoir vendre du rêve, etc. C'est des choses qui étaient probablement extrêmement valorisées jusqu'à il y a 2-3 ans. Maintenant, on a beaucoup plus besoin de dirigeants qui serrent les boulons. La dette est plus chère. Il y a l'inflation. Il faut avoir l'œil sur le cash. Et on ne peut pas juste s'en sortir en disant je vais relever des fonds à nouveau parce que ça va être plus compliqué. Et donc, il y a aussi un contexte global qui fait que pour les voitures électriques, il y a ce fameux hiver de la voiture électrique qui est annoncé. Vous en parliez dans l'émission hier longuement. Donc c'est un vrai challenge. Le problème de Tesla en Chine également, où il risque de se prendre comme Apple un backlash, y compris pour des raisons géopolitiques. Donc il a beaucoup de sujets qui nécessiteraient une focalisation dans l'excellence d'exécution, d'aller rechercher de l'efficacité opérationnelle et peut-être un peu moins de flamboyance.
Alors, je vous invite, on poursuivra la discussion, mais j'aimerais qu'on enchaîne sur l'actu du jour concernant Twitter, parce que le temps passe. On pourrait faire une heure, voire deux heures sur Elon Musk, finalement.
Voire tout un livre.
Voire tout un livre. Bien joué, Boris. Il est pas mal, quand même. On va le garder. Et donc, Elon Musk a annoncé des petits frais supplémentaires dans un message publié, hier, sur X. Donc, il a annoncé que les nouveaux utilisateurs du réseau social devront bientôt payer pour publier sur la plateforme. Alors, la raison invoquée, j'imagine que tu as suivi cette histoire-là, c'est qu'aujourd'hui, Twitter est envahi par les bots, et les bots arrivent à détecter en fait tous les CAPTCHA, etc., grâce à l'intelligence artificielle. Et il se dit qu'en payant, on va s'affranchir de la plupart des bots. Qu'est-ce que tu en penses ?
Je pense que les bots, c'est un peu une zone d'alerte pour Elon Musk, puisque c'est un peu sa bonne excuse depuis le début, dès qu'il parle de Twitter.
Parce que ça fait un an qu'il
veut racheter, il veut plus racheter, etc. Voilà. Il parle tout le temps de bots, c'est un peu flou. Et depuis le rachat, on commence à avoir un peu de passif. Je ne sais pas vous, en tant qu'utilisateur, moi je vois toujours autant de bots. Il y en a, c'est un vrai problème pour le réseau social, mais il y en a toujours autant. Oui, je pense qu'il avait sa grande idée de faire payer les utilisateurs avec la petite coche bleue, les utilisateurs vérifiés. Ça n'a pas fonctionné. Ouais. Il a complètement sous-estimé le poids des annonceurs. C'est une entreprise qui fonctionne avec ses annonceurs. Il a été quand même jusqu'à insulter des annonceurs. Et là, il se rend compte qu'il faut trouver, il faut faire rentrer de l'argent. Donc, il tente une nouvelle option. Est-ce qu'elle va marcher? Ça me paraît un peu aventureux.
Ouais. Et puis, bon, c'est vrai qu'un réseau social, faire payer de nouveaux utilisateurs, comment et combien? Alors, on parle de $1 par an, enfin, de toutes petites sommes, mais malgré tout, quoi. Est-ce qu'on a envie de donner son numéro de carte bancaire à X? Je suis pas sûr. Ce qui est intéressant quand on évoque ces bots, c'est que, je sais pas si vous connaissez une boîte qui est Imperva, qui est une des filiales du groupe Thales, qui est spécialiste de la sécurité informatique, vient de publier, en fait, un rapport, 2024, principal enseignement, c'est la montée en puissance justement inexorable des bots. Alors, pas que sur X et sur Twitter, partout en fait, des bots malveillants, ces logiciels automatisés qui sont capables de faire de gros débats. Écoutez les explications de Jean-Baptiste Huette et on revient juste après sur ce sujet.
Piratage de comptes utilisateurs, récupération de données sensibles, blocage des sites internet par déni de service, spam. L'an dernier, la part du trafic des bots malveillants, ces programmes informatiques retors, a atteint 32%. Dans le détail, c'est en Irlande où la situation est la plus critique, avec 71% du trafic internet utilisé par ces robots malveillants, suivi de l'Allemagne, un peu plus de 67%, et du Mexique, presque 43%. De nombreux secteurs économiques sont touchés, bien sûr le monde du jeu vidéo, mais aussi le commerce de détail, les voyages, les services financiers, les sites gouvernementaux. Des attaques, souligne l'étude, qui ont un impact négatif sur les finances des entreprises, plusieurs milliards de dollars par an. Des attaques qui dégrade aussi la qualité de service en ligne. Plus globalement, les bots, malveillants ou non, sont petit à petit en train de prendre le contrôle de nos réseaux. De plus en plus de robots, de moins en moins d'humains. Selon Imperva, les humains ne génèrent plus que la moitié du trafic Internet mondial.
Incroyable. La moitié du trafic Internet qui est donc, on va dire, occupé par les bots. Qui parasite, qui gangrène en quelque sorte l'internet. C'est fou cette histoire-là. On s'éloigne un petit peu du sujet Elon Musk et Twitter, mais finalement pas tant que ça, non, Christophe?
Oui, bah ils sont. Enfin, il y a une grosse partie des bots qui sont des bots malveillants et qui sont aussi beaucoup utilisés dans les attaques dans les attaques cyber ou pour récupérer des informations. Et puis, tu faisais référence à ce rapport de Thales, mais il y a la société Allmonde avec qui je travaille sort son Threat Landscape 2024 pour parler français sur ce qui s'est passé sur le territoire français. 33% d'augmentation des ransomware, des bots qui sont nourris à l'intelligence artificielle pour créer des éléments contextuels qui fait que l'utilisateur se laisse avoir. Il y a une puissance de l'IA au service de la cyber et de ces outils-là qui est très inquiétante et qui sont mis aux mains de mafias qui sont comme des multinationales au service
de pays
ou de pays qui veulent déstabiliser d'autres pays.
Ouais. Mais qu'est-ce qu'on peut faire, Salim? Oui, non, réagir là-dessus.
De manière générale, dans toutes les industries les voleurs et les malveillants sont toujours plus rapides, plus innovants que on trouve les solutions après. Et aujourd'hui, les bots, ils arrivent à avoir accès quasiment à l'intégralité des sites internet parce que les captcha franchement ne sont plus du tout efficaces. Enfin, quand on voit ce que GPT-4 et les autres LLM sont capables de faire, on vous demande de cliquer sur trois feux rouges, n'importe quel modèle LLM aujourd'hui capable de faire. Modèle LLM, ils sont capables de réussir des concours à l'entrée de Polytechnique sans aucun problème.
Avec les captcha, des fois,
et on vous demande, voilà. Donc les captcha aujourd'hui sont complètement inefficaces. Et je pense que ça explique aussi en partie l'explosion alors peut-être que ça donne une opportunité et en face entre guillemets la formation des gens en cybersécurité pour l'instant pas à la hauteur. Alors ce sera peut-être un des grands métiers du 21e siècle avec la data science et l'intelligence artificielle.
Boris, avec en plus en ligne de mire les JO là.
Parce que c'est le sujet derrière. On parle beaucoup de bots et de trafic un peu au général. Oui. Mais je pense qu'il faut pas perdre de vue que derrière il y a des volontés potentiellement de déstabilisation et
nuisance.
Et avec des humains qui ont décidé d'attaquer tel ou tel service pour déstabiliser, écorner. Et en ce moment, l'image de la France, comme on le voit, en vue des JO, c'est, je pense, des campagnes assez globales. Mmh. On a vu que l'affaire des punaises de lit était un peu montée en épingle.
Tout à fait, ouais.
Fomentée par des potentiels médias russes. Mmh. Viginum a relevé qu'il y avait beaucoup de médias russes qui diffusaient des fausses informations. Et là, on a pas mal de cyberattaques par déni de service contre des organismes d'État. C'est un ensemble un petit peu pour écorner l'image de la France.
Tout à fait, déstabiliser, surtout à un moment où tous les projecteurs seront braqués sur notre pays à l'occasion des JO.